Morning Weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Bonjour à tous, on est ensemble jusqu'à 10h ce matin sur BFM Business à la radio pour Good Morning Weekend, l'actualité de la semaine revue par tous nos amis, tous nos complices dans une heure, hein, l'actualité à l'étranger. Tout de suite, je vous les présente. Est-ce qu'il est nécessaire de vous les présenter ? Vous les adorez. Il y a Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business. Marc de Citivaux, bonjour.
Bonjour à plus que tous.
À plus que tous et toutes, surtout pour vous, Marc de Citivaux, économiste fondateur des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Olivier Lecomte.
Good morning Fabrice.
Good morning Oliver. Bah oui, parce qu'on va peut-être parler de l'anglais à la fac tout à l'heure.
Bon, exactement.
Il y a quand même plus grave dans l'actualité. Vous allez voir dans un instant, mais bon, apparemment, ça a suscité beaucoup de polémiques. Olivier Lecomte, il est professeur de finance à Centrale Paris. Oui. Il y a l'affaire Lagarde, bien sûr, on vient d'en parler avec Sandrine Seret, je pense qu'on y reviendra à 8h30 à la reprise. Bon, quand même, cette question, quand même, pour démarrer, hein. Est-ce qu'il faut à nouveau s'inquiéter après l'embellie de ces dernières semaines sur les marchés et ce net recul en fin de semaine sur les différentes places boursières? Il y a eu mercredi les déclarations de Ben Bernanke, le président de la Fed, disant que si l'économie allait mieux, il pourrait revoir à la baisse ses achats de titres. En clair, il s'interrogeait sur cette fameuse politique accommodante menée depuis plus de 5 ans par la réserve fédérale américaine. Jeudi, la Chine, qui sortait un indice manufacturier à la baisse. Hein, bref, l'industrie chinoise serait-elle menacée de contraction ? Résultat, on a vu Tokyo qui s'est effondré, suivi d'un fort recul ailleurs dans le monde. Emmanuel Le Chypre, quelle explication vous donnez ?
C'est clair que la hausse des marchés de ces dernières semaines, elle est quand même très forte et elle est quand même décorrélée des perspectives économiques. On est aujourd'hui sur des rythmes de hausse depuis le creux qui avait été atteint en 2009. On est sur les rythmes de hausse qui sont partis pour doubler les indices, exactement comme on avait eu entre 96 et 2000 et comme on avait eu entre 2002 et 2006. Et à l'époque, on avait des perspectives de croissance qui étaient beaucoup plus attrayantes. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement des marchés qui commencent à être même un peu surévalués, y compris au regard, par exemple, des prix de ces fameux cours, de ces fameux ratios où entre le cours de l'action et les bénéfices de l'entreprise. Aux États-Unis, on est à peu près à 25% de surévaluation sans doute.
Voilà,
mais il y a énormément de liquidités évidemment, et c'est de là que vient le fuel, le carburant qui alimente la hausse des bourses, sachant qu'en plus vous avez des taux d'intérêt à long terme qui sont très très bas, que donc les prix des obligations sont déjà très très chers, et que quand vous avez des taux d'intérêt sur ces obligations qui sont très très bas, ben naturellement ça porte aussi le marché boursier. Donc oui, la correction elle est logique. Sachant que la décision qui fera basculer les marchés dans un autre univers, c'est vraiment le jour où la réserve fédérale américaine décidera de commencer à resserrer un petit peu le robinet du crédit.
Alors justement, Marc de Citivaux, ce que dit Emmanuel Le Chypre, très juste, hein, le discours de Bernanke, est-ce qu'il va mettre fin donc à cette politique jugée accommodante ? Est-ce que la stabilité financière est menacée ? Dixit Bernanke.
Alors si vous voulez, cette affaire est une grande complexité. Pourquoi ? Parce que, comme nous le savons tous, les marchés qui ont raison à long terme ont toujours tort à court terme. Et entre autres, ce qui devrait être considéré comme une bonne nouvelle peut être à un moment considéré comme une mauvaise nouvelle. Il est clair que si M. Bernanke un jour arrête d'avoir une politique accommodante, c'est parce que la machine américaine, et je reviens de New York, marche très bien. C'est un fait indéniable. Et donc, personnellement, je trouve qu'il aurait déjà dû mettre le pied sur le frein, sans doute il y a plusieurs mois. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce qu'il avait envie qu'Obama soit réélu. Pourquoi ? Parce qu'Obama avait dit qu'il le garderait, alors que Mitt Romney avait fait l'erreur de dire qu'il ne le garderait pas. Bon, donc, on a sans doute été un peu trop loin. D'autre part, il est clair également que je pense que Bernanke attendait plusieurs choses. Bien évidemment, l'emploi s'améliore à la vitesse grand V, et surtout...
Oui. À la vitesse V, quoi.
Non, ce que j'appelle la vitesse grand V, c'est que quand vous avez 5,5 millions de création d'emplois en 3 ans, vous ne pouvez pas appeler ça grand V. Vous ne pouvez pas appeler ça petit V. En France, ça aurait voulu dire à population existante 800 000 emplois. Si on avait 800 000 emplois de créés dans les 3 dernières années, M. Sarkozy serait encore président. Et voilà, si vous voulez. Donc, c'est ce que j'appellerais quand même une vitesse grand V. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement frappant, parce que parfois, vous avez des petits exemples de vécu. Je reviens de New York. Le taxi qui m'amène à l'aéroport me dit en conduisant « Oui, alors, quand nous étions en récession, Rien que ça, si vous voulez, c'est déjà un signe de quelque chose. Je pourrais vous donner 100 autres exemples. Mais enfin, voilà. Bon, déjà, à mon avis, cette politique monétaire très expansive menée par la Fed, selon moi, ne se justifiait pas depuis un certain temps. Mais pourquoi elle ne se justifiait plus ? Mais néanmoins, ça veut dire que s'il l'arrête, c'est qu'il considère maintenant... Surtout que n'oubliez pas que Bernanke, s'il y a un reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être plutôt un peu trop laxiste qu'un peu trop sévère. C'est un homme qui est, vous connaissez ses fameuses thèses pour empêcher la crise déflationniste et ainsi de suite. Donc, en fait, l'annonce là, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le plan économique. Les marchés ont pris l'habitude de dire « Ah, si on monte les taux, c'est mauvais ». L'expérience sur très longue période montre que ce n'est pas vrai. La montée des taux lorsqu'il y a croissance économique n'est pas un mauvais signe. Néanmoins, dans ce cas bien précis, il est vrai que, contrairement à ce que pensaient beaucoup de gens, la création de liquidités par les banques centrales n'a pas pour effet de faire de l'inflation, puisque pendant le même moment, les banques commerciales restreignent leur crédit. Par contre, elles sont souvent à l'origine de bulles. Et donc la troisième question majeure vient que, tant qu'il y aura, parce que même si la Fed commence à resserrer un peu, je vous assure, que c'est pas tout à fait tout de suite qu'elle va s'arrêter de distribuer des liquidités, auxquelles vient de se rajouter la Banque du Japon, et il n'est pas assuré que la BCE ne rajouterait pas. Tant que vous avez cette liquidité, elle doit se déverser quelque part. Et le problème majeur, c'est que on a vu où elle s'était déversée dans les temps passés. Un coup l'immobilier, un coup les obligations. Pourquoi les actions ne seraient pas les réceptionnaires des bulles ? Parce que déjà, sur le plan du prix en lui-même, je suis en désaccord avec ce que vient de dire, je ne trouve pas les actions trop chères. Et il se peut qu'elles puissent être bénéficiaires de cet excès de liquidité qui est une bulle action. Moi, je pense depuis des années qu'il y aura un jour une bulle action. Je ne pense qu'on en est... Peut-être qu'on commence à en voir les prémices, mais c'est loin d'être fini.
Olivier Lecomte.
Alors pour reprendre dans l'ordre, hein, puisqu'on est parti sur déjà les corrections sur les marchés. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Emmanuel, c'est que les actions ont monté assez vite, justement compte tenu des signes de reprise ici et là, des politiques monétaires accommodantes, des initiatives qui ont été prises au Japon. Enfin bref, donc. On a une accélération une forte hausse. Et ben, de temps en temps, il y a une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, je pense que ça n'a aucune importance. Il faut qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui permette aux opérateurs de, ce qu'on appelle, profit taking. On prend les bénéfices. Puisqu'on a acheté des actions à un certain moment, elles ont monté, on les vend, ce qui permet d'enregistrer une performance sympathique qui va ensuite être montrée aux investisseurs. Bon. Donc ça, c'est une correction tout à fait normale. Et je vous dis, quel que soit le motif. Bon. Maintenant, s'agissant du propos de Marc concernant la politique de la Banque fédérale, alors bon, je suis moins affirmatif que lui sur le fait que la politique de Bernanke a été essentiellement dictée par des considérations électorales, enfin pour soutenir Obama, parce que il y a quand même un conseil au sein de la Fed, avec en plus une publication des discussions, hein, des comptes rendus des réunions, et globalement en fait il y avait très peu d'avis dissonants pour un qui aller à l'encontre justement du prolongement de cette politique, parce que justement jusqu'à une époque encore récente les chiffres étaient encore assez fragiles, les signes de reprise aux États-Unis étaient encore assez fragiles sur l'emploi, on avait des statistiques qui variaient beaucoup d'une fois sur l'autre sur la consommation des ménages, etc. Donc il n'est pas choquant pour moi que Bernanke est encore attendu. En revanche, le vrai sujet, c'est effectivement maintenant comment on va sortir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une huitaine de jours, il y a un des membres justement du board de la Fed qui a commencé à poser des questions, savoir si on allait sortir, ça vrai, émettre des signaux. Et là, on est typiquement dans le genre de choses que font les banquiers centraux pour commencer à dire, voilà, alors on y pense, etc. Et ce sont des espèces de ballons d'essai pour voir comment les marchés réagissent et pour que les marchés commencent à intégrer le fait que ça va se terminer.
Voilà. Et la Chine, alors, comment interpréter ce qui s'est fait en Chine, ce qui s'est dit, ces inquiétudes, cet indice manufacturier, cette question, donc en effet, est-ce que l'industrie serait menacée de contraction ? Qu'est-ce qu'il faut craindre, Emmanuel Le Chypre ? Des surcapacités industrielles, une fragilisation du système
financier,
c'est quoi ? Le
problème avec la Chine, c'est que dès que vous avez un indicateur qui s'emballe un peu, alors c'est « Ah, la Chine est en surchauffe !» Dès que vous avez un indicateur qui ralentit un peu, « Ah, la Chine va tomber en récession !» Non, je crois que là, pour le coup, il fallait, c'est un peu le prétexte sous-jacent à la vente.
D'accord.
Comme l'a dit Olivier, je veux dire, quand vous avez fait 20 à 30% de hausse sur des actions que vous avez achetées il y a un an, bah, il y a un moment où vous vous dites quand même, bon, bah, voilà, ça, c'est pas déraisonnable de prendre un peu ces profits. Sachant que juste pour compléter, sur quand est-ce qu'on est capable de mettre le pied sur le frein. Les banquiers centraux, généralement, ils ont jamais été capables de mettre le pied sur le frein suffisamment tôt. Hein, regardez notre ami regretté chef économiste de la BCE, Otmar Issing, disait le banquier central, c'est le gars qui ferme le bar à 3h du matin quand la fête bat son plein. Bon, et ben là, le problème, c'est qu'on a tendance à prolonger. Et rappelez-vous que Greenspan, quand il parle pour la première fois de l'exubérance irrationnelle des marchés, on est en 1996, on est à l'automne 1996, il y aura encore derrière 3 à 4 ans de hausse très forte. Donc, attention à être capable de négocier ce tournant que peu de gens ont réussi à négocier dans le passé.
Olivier Lecomte.
Je reviens sur la Chine deux secondes. Non, donc on a eu une petite contraction de certains indices de production. Hein, donc là, on n'est plus sur les marchés, on est sur. Et bah, c'est simplement le reflet de ce que la Chine étant un pays exportateur, comme chacun sait, et que nous, l'Europe faisant partie de ses grands clients, et que l'Europe se portant mal, comme chacun sait, forcément, ça se répercute sur la Chine. Et ça prouve bien le défi de la Chine, qui est justement, et ça a été d'ailleurs annoncé très clairement par le nouveau gouvernement, enfin la nouvelle équipe dirigeante chinoise, qui est de dire essayer de progressivement orienter l'économie chinoise vers de la consommation intérieure pour être un peu moins dépendant des exportations.
Alors justement dans ce contexte l'Europe qui s'en prend à la concurrence jugée déloyale venue de Chine, l'offensive vous le savez elle a été lancée depuis le début du mois entre autres avec des droits de douane relevés d'un coup contre les panneaux solaires, il y a une enquête anti-dumping contre deux géants des télécoms Huawei et ZTE, les télécoms, le solaire sont-ils trop aidés par les pouvoirs publics? L'Europe se réveille enfin, n'est-ce pas trop tard, Marc de Citivo?
D'abord, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui est capable de me faire une définition de la concurrence loyale. Car évidemment, toute concurrence veut dire qu'un prix est plus bas qu'un autre, et immédiatement celui qui est chassé du marché accuse l'autre de manipulation. Je rappelle la célèbre histoire de la parabole de Bastia avec la lettre au roi exigeant d'imposer à l'Espagne de mettre des parasols parce que le soleil faisait une concurrence aux tomates et aux oranges françaises. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, toute concurrence est déloyale. Je pense que si l'Europe devait réfléchir sur les problèmes de subvention, la vraie question, c'est peut-être que c'est une vache de bonne nouvelle que les Chinois subventionnent leurs panneaux solaires. Parce que, comme on regrettera tous, lorsque les prix de l'énergie se diviseront par 5 dans la décennie qui vient, d'avoir financé avec l'argent des contribuables, de manière massive, l'énergie alternative, eh ben on dira au moins que ce sera avec l'argent du contribuable chinois. Très bonne nouvelle.
En même temps, on voit en Allemagne, Allemagne que vous connaissez bien, Olivier Lecomte, le patronat de l'industrie qui s'inquiète de cette offensive. L'Allemagne, c'est quand même la moitié de ses exportations. Ça va en Chine.
Ça va en Chine, absolument. Bon, écoutez, on est vraiment dans des choses classiques. Tout ça, il y a une longue histoire de tels conflits entre l'Europe, les États-Unis sur Boeing, Airbus, et puis sur d'autres sujets d'ailleurs, entre la Chine et le reste du monde. Bon, c'est clair que le ton durcit un peu d'ailleurs, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ce qui est passé inaperçu cette semaine, c'est qu'il y a une commission qui s'intitule la commission sur le vol de la propriété intellectuelle américaine, qui a rendu un rapport dans lequel ils accusent tout bêtement le reste du monde de voler, donc de piller la propriété intellectuelle américaine. Ça représenterait un coût, selon eux, de 300 milliards de dollars par an, ce qui est considérable. Et dans les responsables, ils disent en premier pour à peu près 70% la Chine et en deuxième la Russie et l'Inde. Bon,
quelle surprise.
Bon, voilà. Et alors, on sait bien que c'est pas faux. Contrefaçon, exploitation de brevets sans payer de royalties, etc. Donc, on voit bien qu'il y a eu effectivement dans les zones du monde où les choses vont un peu moins bien, une tendance à dire. Et les Chinois d'ailleurs vont résister très bien et ils vont gérer ça très patiemment, comme ils ont fait sur leur taux de change d'ailleurs. Hein, c'est la même chose.
Bon, l'Allemagne, on y revient dans un instant avec le discours de François Hollande à Leipzig. Est-ce un tournant justement, dans la présidence de François Hollande. Good Morning Weekend sur BFM Business à la radio avec Marc de Citivo, Emmanuel Le Chypre, Olivier Lecomte. À tout de suite.
BFM Business, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
De retour dans ce studio de Good Morning Weekend sur BFM Business à la radio avec Marc de Citivo, le fondateur des Cahiers Verts de l'économie, de retour de New York, Olivier Lecomte, professeur de finance à Central Paris, Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business que vous trouvez, que vous croisez tous les soirs dans les décodeurs de l'écho à la télévision, 19h, 20h30, à mes côtés. Alors, l'Allemagne, justement, on en parlait il y a quelques secondes, avec un soutien appuyé de François Hollande à Gerhard Schröder, l'ancien ancien chancelier, l'homme des réformes du début des années 2000, à l'occasion du 150e anniversaire du congrès du SPD à Leipzig. C'était jeudi après-midi. François Hollande.
Le progrès, c'est aussi de faire, dans des moments difficiles, des choix courageux pour préserver l'emploi, pour anticiper les mutations industrielles. Et c'est ce qu'a fait Gerhard Schröder ici en Allemagne et qui permet aujourd'hui à votre pays d'être en avance sur d'autres. Ces décisions ne sont pas faciles à prendre. Elles peuvent même faire surgir des controverses. Mais rien ne se construit. Rien de solide ne se bâtit en ignorant le réel.
Voilà, discours applaudi par la salle. Alors, François Hollande, socialiste, hein, c'était sa conférence de presse d'il y a 10 jours, ou alors social-démocrate. Est-ce qu'il a fait son coming out, Marc de Citivo?
Moi, je crois qu'il est, il est un peu comme la chauve-souris de Charles Ramy. Selon les endroits, regardez, chez un oiseau, voyez mes ailes, et à d'autres, je suis un rat, voyez mes poils. Donc là, il a montré les ailes libérales en Allemagne, et il nous montrera ses poils socialistes en France.
Oh, ça,
donc
bien.
derrière ce point, je rappellerai ce que l'ineffable l'immirable sénateur socialiste, madame, j'arrive jamais à
dire. Mann, oui.
Lindemann avait dit à un moment, bon, Schröder, c'est très bien, mais il a quand même fait perdre les élections au SPD. Et je crains, que cette réalité électorale.
Vous savez ce qu'elle a dit hier matin? Non, elle a parlé de l'ex-camarade Hollande. Voilà. Donc elle a rayé complètement des listes.
Hein. Donc, je crains, si vous voulez, je serais ravi que Hollande ait trouvé son chemin de Damas et qu'il remonte qu'il change son cheval et qu'il remonte en décidant de combattre ce qu'il avait soutenu. Mais je me fais personnellement peu d'illusions dans ce domaine. Je crains quand même que le poids électoral l'empêche. Je serais ravi. Je pense que c'est dommage que les socialistes, c'est idiot aient fait l'erreur de couler Bayrou.
Oui,
au Parlement. Ouais. Parce que là, ils auraient une petite, il y aurait un petit élastique qui va lui manquer quand même, je pense.
Est-ce que ce discours de Leipzig chez Emmanuel Le Chip, c'est un tournant pour François Hollande?
Non, pas du tout.
Bon.
Attendez, dans le contenu de ce qu'il a dit, je veux dire.
Qu'est-ce qu'il a salué sur la forme ou le fond de Schröder?
Le fond, il l'a déjà salué, même dans sa conférence de presse de la semaine dernière, il l'avait déjà dit. Son virage social-libéral, il l'avait amorcé dans la conférence de novembre. Il n'a quand même cessé d'être constant sur ce plan depuis des mois. Donc, on ne peut pas dire que cette direction social-libérale, ce soit une nouveauté. Là où il a été un peu plus loin en Allemagne, c'est de dire. Il y a des moments difficiles où faut faire des choix, il faut réformer. Moi, je continue à dire quand même que ce que j'ai toujours dit depuis le mois de novembre et depuis qu'il a amorcé ce virage, c'est que je pense que quand on regardera la France en 2017, eh bien moi, je vous dis que ce pays aura plus changé entre 2012 et 2017 qu'il a changé au cours des 15 années précédentes. Voilà. Alors je prends date. Je pense qu'il va par petites touches essayer d'y arriver. Alors il a un parti socialiste qui ne l'aide pas en ce sens, mais moi je pense que sur cette voie social-démocrate, il est maintenant bien engagé et que on est à l'heure de vérité où il va falloir assumer des choix.
Prendre des décisions. Voyait encore Pierre Moscovici hier dans les Échos disant il n'y aura pas de loi sur la rémunération des patrons, par exemple. Bon, voilà, est-ce que ça
typiquement. Sachant qu'il y a quand même une ombre au tableau, mais peut-être que voilà, c'est stratégique, etc. C'est vrai que pour le coup, il y a un aspect important dans ce volet social-démocrate qui est la baisse de la dépense publique et la réforme de l'État, où là pour le coup, on voit rien.
Bon,
là, faut être honnête.
Olivier Lecomte, le Parti socialiste en France va devoir clairement assumer.
Ah ben, je pense à un moment donné qu'il avale quelques couleuvres, évidemment, parce que je pense que même si ce discours a été prononcé à l'extérieur de la France et s'adressait pas aux Français,
il a été
entendu ici. Si ce n'est que la symbolique est importante, les mêmes mots prononcés solennellement dans une adresse à la nation n'auraient pas eu la même valeur que prononcés. Bon, cela dit, on voit bien quand même, comme François Hollande aime bien plus justement, il a un côté banquier central aussi, c'est-à-dire avancer par petites touches, laisser entre en recul, etc. On voit bien quand même que le cap qu'il entend suivre, je crois, et je rejoins d'ailleurs assez Emmanuel là-dessus, ça va être un cap des réformes, ça va être un cadre des réformes qui vont aller dans le sens de l'acceptation du réel, hein, puisqu'il nous dit, voilà, on ne construit rien de solide en ignorant le réel. L'acceptation du réel, c'est que la mondialisation existe, qu'on peut pas en sortir, qu'au contraire, il faut en être un acteur important, que pour ça, il faut se doter d'atouts, etc., 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 etc. Bon, et donc, je pense qu'il va tout à fait aller dans cette direction. Alors, avec plus ou moins de rapidité, avec plus, il sera plus ou moins tortueux. Et c'est vrai, je rejoins là aussi le commentaire de Marx sur le fait que une force d'appoint au centre droit, au centre gauche, aurait été bien utile pour ce changement de cap.
Ouais. Marc de Citivo.
Ben, si vous voulez, je pense que pour l'instant, il a tous les avantages, c'est-à-dire que faisant ce type de discours en Allemagne, ça garantit pendant encore un certain temps un des éléments fondamentaux, qui est la non-décorrélation des taux français, des taux allemands. Mais c'est vrai également que ceci ne durera qu'un certain temps. Et donc il faudra bien en 2014, après avoir rassuré les gens par les discours, leur montrer que les faits sont conformes aux discours. Alors là, je suis un peu moins optimiste que mes camarades. Je ne suis pas convaincu que lorsqu'il faudra atteindre le 100, c'est-à-dire en effet la baisse des dépenses publiques, en effet la réduction du nombre de fonctionnaires ou la réduction de leur salaire, un certain nombre de réductions très importantes du budget social et de ce qui est distribué aux Français dans le budget social, je ne suis pas du tout convaincu que notre ami Hollande sera prêt à l'imposer. Je ne souhaite qu'une chose, c'est avoir tort.
Mais à ce moment-là, il y aura la contrainte, Emmanuel. Marc. À ce moment-là, il y aura la contrainte.
Oui, je suis d'accord.
Parce qu'on voit bien que dans la discussion qui va se nouer avec la Commission européenne, il y a un élément important qu'on n'a pas souligné, c'est que la chute de l'investissement à laquelle on assiste depuis plusieurs trimestres est à amputer notre potentiel de croissance qui aujourd'hui n'est plus du tout de 1,5 à 2% comme le pense Bercy, mais est plutôt inférieur à 1%. Et donc du coup, mécaniquement, le fameux déficit structurel qui est calculé à partir de la croissance potentielle, eh bien, ça veut dire que la part structurelle de nos déficits, elle est bien plus importante que ce qu'on croit. Et ça, la Commission en est consciente. Et donc, quand on va être obligé de faire ce que nous demande de faire la Commission, là, il y aura quand même une forme d'épée dans le dos. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je crois que cette fois-ci, on ne pourra pas se dérober devant l'obstacle.
Allez, avant les infos du 8h30, Olivier Lecomte.
Hein. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il va essayer de s'en sortir avec une formule à la grand emprunt. Hein. C'est-à-dire, il va essayer de dire, bon, voilà, alors, on serre sérieusement les robinets, enfin on ferme les robinets sur pas mal de dépenses, etc. Mais par contre, j'ai sauvegardé X milliards pour faire de l'investissement d'avenir, ou qu'il appellera pas comme ça, parce que ça c'était l'appellation de Sarkozy. Mais oui, je pense qu'il va essayer de trouver comme ça une solution qui préserve de l'investissement dans des endroits stratégiques, ce qui donnera une bouffée d'air et qui lui permettra de dire, vous voyez qu'il n'y a pas que de la rigueur, et puis de l'autre côté, il y aura un sacré coup de vis par ailleurs.
Bon, ouais. On va y revenir dans un instant, puis on reviendra aussi sur l'affaire Lagarde. Hein. D'ailleurs, les derniers éléments avec Sandrine Serret tout de suite, 8h30, les infos, et puis le retour donc de Marc de Citivo, d'Olivier Lecomte, Emmanuel Lechypre. Bonne matinée, bon samedi, good morning weekend.
Good morning weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Business.
Merci Sandrine, à tout à l'heure, 9h, Good Morning Weekend qui continue. Il y aura la deuxième partie tout à l'heure entre 9 et 10. Avec l'actualité à l'étranger, on sera avec Martine Gosland de Marianne, avec Peter Gamble de Time. Il y a un instant, je crois que c'était Marc de Citivo qui évoquait à l'occasion des efforts de la France à faire qu'à terme, il y aurait une nécessité peut-être de toucher au social. Juste, on parle beaucoup depuis le début de la semaine de ces émeutes à Stockholm, dans la banlieue de la capitale suédoise, avec le gouvernement qui durcit le ton. L'État-providence, apparemment, se délite même en Scandinavie. Qu'est-ce que ça vous inspire spontanément, Emmanuel Lechypre ?
L'État-providence, tel qu'on peut le voir en France, il n'est plus du tout ce qu'il était. C'est-à-dire que si les Français ont encore l'image du modèle suédois des années 70, je veux dire, ça n'est plus rien à voir avec ça. On est dans un pays qui a quand même fait considérablement des réformes très libérales depuis le début des années 90 et qui a abouti à la réduction des déficits publics, des prestations sociales, des filets d'assurance chômage, etc. Donc aujourd'hui, vous êtes dans un pays qui est un pays qui est plutôt un pays libéral et qui n'est pas qui ne protège pas de façon façon démesurée. Les Suédois ne sont pas dans un cocon et donc effectivement. Sachant que le problème économique on est dans la sociologie aussi là, hein, oui, on n'est pas vrai. Seulement dans la ouais. dans l'économie.
Et Olivier Lecomte.
Ouais, justement, je pense que il y a cette dimension sociologique. Mais en plus, d'ailleurs, l'économie suédoise, elle se porte pas si mal, hein, je rappelle. On a clairement c'est une société très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a le cœur de Suédois, j'allais dire de souche, pour utiliser un mot que je n'aime guère, dans la structure des villes comme ça, des quartiers où vivent des minorités, où il y a quasiment pas de mélange, etc. Donc tout ça peut constituer des chaudrons, effectivement, quand il y a des difficultés économiques. On est sur des sociétés qui fonctionnent bien aussi longtemps qu'elles fonctionnent sur leur côté très homogène, ce qui leur a permis justement de se réformer, etc. Mais à l'intérieur de cette homogénéité apparente, il y a des poches d'hétérogénéité qui elles sont mal intégrées.
Alors avant de revenir sur l'affaire Lagarde dont on parlait tout de suite dans les infos du 8h30, un dernier mot sur l'Allemagne. Tiens, un pays que vous connaissez bien, Olivier Lecomte. Allez, je vous fais écouter ça, vous devinez. Mais alors c'est quoi? Ben non, mais me regardez pas comme ça. Bon, alors, évidemment, Cascada, personne connaît ici, je pense. Bon, 21e seulement à l'Eurovision samedi dernier à Malmö. Bon, très bien, pourquoi on parle de l'Eurovision? A priori, on s'en fout de l'Eurovision. Oui. Hein. C'est la plus mauvaise performance pour l'Allemagne depuis 5 ans. 18 points seulement pour l'Allemagne. 34 pays sur 39 ne lui ont pas accordé le moindre point. Et là-bas en Allemagne, on se demande si les Européens ne se sont pas vengés d'Angela Merkel et de sa politique d'austérité. Un peu pourquoi tant de haine, Olivier Lecomte?
Bah écoutez, d'abord, il faut.
Des gros débats cette semaine.
Ah oui, c'est vrai. Non, mais on peut imaginer effectivement. D'abord, il faudrait quand même essayer de voir la qualité relative des candidats. Mais
à l'Eurovision.
À l'Eurovision. Bon. Non, mais genre les uns par rapport aux autres. Oui. Non, il n'est pas effectivement. On peut pas imaginer. On peut pas dire, en tout cas, prétendre que l'Allemagne a une image hyper favorable en Europe, notamment les pays d'Europe du Sud, après ces dernières années. À tort ou à raison, je veux dire. Donc bah oui, c'est sûr que les Grecs, les Chypriotes ou je ne sais quoi, ils sont pas dû se précipiter pour élire l'Allemagne. Oui.
Et je donne la parole au jury, Marc de Citivo.
Mais je ne vois pas pourquoi l'Allemagne se plaint, puisque somme toute, elle a appliqué parfaitement la fable de la fontaine, la cigale et la fourmi, et donc elle dit aux cigales, vous avez chanté tout l'été, eh bien dansez maintenant, et c'est donc normal que celle-ci remporte le prix de la chanson. Et l'Allemagne, le prix de la nourriture. Enfin,
par
peut-être
exemple.
Pas de la qualité, mais au moins de la quantité.
Bon, il est moins 20. L'affaire Lagarde, maintenant, évidemment, à la une de l'actualité aussi. La directrice générale du FMI, entendue 2 jours de suite par la Cour de justice de la République, où elle devait s'expliquer sur son rôle dans l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de Bernard Tapie. Est-ce qu'elle lui a été trop favorable à l'époque? Christine Lagarde, donc, à l'issue donc, de son audition hier après-midi.
Je viens d'être entendue par les magistrats de la Cour de justice de la République dans un dossier complexe et ancien qui a opposé depuis plus de 20 ans le groupe Bernard Tapie et ses liquidateurs au Crédit Lyonnais. Mes explications ont permis d'apporter les réponses aux doutes qui avaient été soulevés concernant les décisions que j'avais prises à l'époque. Mon statut de témoin assisté n'est pas une surprise pour moi, puisque j'ai toujours agi dans l'intérêt de l'État et conformément à la loi. Il est temps maintenant pour moi de rentrer à Washington, poursuivre ma mission à la tête du FMI et rendre compte à mon conseil d'administration.
Christine Lagarde, donc, c'était vendredi. Une question, bon, maintenant, est-ce qu'elle a agi seule? Est-ce que Lagarde était la seule à prendre la décision? François Bayrou, il y avait vu un renvoi d'ascenseur après le soutien par Bernard Tapie de Nicolas Sarkozy. On va écouter François Bayrou.
Qu'est-ce qui est grave? Ce qui est grave, c'est que la décision a été prise contrairement au principe du droit.
Et vous pensez principes... que c'était délibéré? Et
ah,
vous pensez que c'était organisé?
Je suis absolument certain que c'était voulu.
Voilà, François Bayrou, donc, c'était sur BFM TV avec Route El Krief. Marc de Citivo.
Ah ben, vous savez... Chirac a quand même beaucoup blessé, si ce n'est tué Juppé. Si Lagarde est blessée, on pourra dire Sarkozy m'a tué. Voilà, personne au monde ne peut considérer, sur la suite de cette affaire, que la responsabilité finale est celle de Madame Lagarde.
Est-ce que ça veut dire quoi? Il y a une affaire Sarkozy?
Ah ben bah, s'il y a une affaire, elle sera Sarkozy. Oui, elle sera pas, elle sera pas une affaire Lagarde, ça c'est clair.
Emmanuel Le Chypre. Bon,
moi, ce qu'il y a deux choses que je trouve choquantes. La première, c'est d'abord que le rachat du l'affaire Bernard Tapie Crédit Lyonnais, ça date quand même de 1994, et que 20 ans après, on en soit encore à juger et rejuger des affaires, voilà. Après, voilà. Bon, après, il y avait une décision qui avait été prise. Elle est bonne, elle est pas bonne. Voilà. Et puis Christine Lagarde, on ne peut rien lui reprocher. C'est-à-dire que soit elle a fait son boulot en son âme et conscience, soit elle a exécuté les ordres de son président et de son premier ministre, sachant qu'elle était ministre de l'économie, et donc elle a été loyale. Donc, d'une façon ou d'une autre, voilà, moi c'est ça qui me choque, c'est que soit elle a fait, soit, parce que attendez, on peut pas lui reprocher, on lui a reproché pendant des mois et des mois au début de n'être qu'une marionnette, que le pouvoir économique c'était à l'Élysée, qu'elle a avalé des tas de couleuvres, etc. Donc on peut pas dire à la fois qu'elle était... Bah si, tu peux pas dire, on peut pas dire à la fois qu'elle avait aucun pouvoir et que c'était une marionnette et qu'en même temps c'est elle qui est responsable de...
Ah non,
de,
mais ça
de,
je suis d'accord
de,
par
de
contre.
De ce truc. Oui. Voilà, et que elle se retrouve, elle, mise en examen, c'est... Ben voilà, je
bah, bah, elle, Olivier Lecomte.
Elle se retrouve mise en examen parce que elle est celle qui a approuvé,
absolument,
par écrit, un certain nombre de documents. L'affaire est quand même effectivement troublante dans la mesure où ces décisions ont été prises contre l'avis de beaucoup des services de l'État, aussi bien à Bercy que qu'ailleurs, commissaire à la justice, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, il y a tout un tas de, d'anomalies et je vous rappelle quand même que les montants en jeu sont très considérables.
Hein, bon, on va rappeler. D'autant Tapie, que... donc, il a empoché un chèque de 400 millions d'euros de la part du Trésor public, donc de notre part.
D'autant qu'il est aussi apparu au cours de la semaine que le fisc aurait renoncé à des pénalités à hauteur de plus d'une vingtaine de millions de francs qui auraient été, elles aussi, dues par Bernard Tapie. Enfin, ça fait beaucoup de mensuétude avec donc effectivement des responsabilités, puisqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui signe. Et les services n'ayant pas voulu endosser la décision, c'est le ministre qui a dû signer. La vraie difficulté, et en effet, je suis entièrement d'accord avec le parallèle que Marc vient de faire avec Alain Juppé, c'est que il est impossible, et je pense qu'il sera très compliqué, de remonter à un éventuel donneur d'ordre qui serait peut-être Nicolas Sarkozy, parce que vous pensez bien qu'il n'y a pas un papier quelque part où Nicolas Sarkozy dit Christine, je te demande de signer ce machin, quoi. Bon, et donc comme la justice est obligée de se baser sur des actes quand même relativement écrits, précis, prouvés, je crains qu'en effet elle ne fasse du Juppé. Et c'est bien dommage parce qu'à l'étranger, oui, effectivement, elle a une excellente réputation. Voilà, elle est considérée comme une excellente directrice générale du FMI.
C'est Forbes qui disait que...
Est-ce que la présidence du FMI, ça vaut 400 millions ou pas?
Ah bah alors, Emmanuel. Forbes qui disait que Christine Lagarde donc, avait même gagné une place dans le classement donc, cette semaine, 7e rang. L'image de la France quand même et de la classe politique, hein, un mot quand même. Parce que bon, on est quand même deux directeurs généraux du FMI, deux directeurs généraux français. L'un, je ne vais pas vous rappeler qu'il a fait quelques jours à Rikers Island au large de New York. Hein. L'autre, bon, évidemment, interrogé par la Cour de justice de la République, on en parle ce matin. La présence de la France dans les organismes internationaux à terme, bon, va disparaître, à votre avis, Marc de Citivo?
Bon, je n'ai pas d'avis sur la question, mais il est clair que nous ne donnons pas un exemple merveilleux. La classe politique française ne donne pas, mais pas que par cette affaire, oui, hein, honnêtement, ne donne pas depuis un certain temps des exemples merveilleux. Voilà, c'est un fait.
Olivier, hein. Ce sont des choses qui, quand même, malheureusement, ne sont pas une spécialité française. Hein. Il suffit de regarder, par exemple, du côté du Royaume-Uni, où il y a eu, ces dernières années, tout un tas de scandales divers et variés, alors qu'il y a des problèmes de mœurs, des problèmes de détournement de fonds, etc. Bon, alors, c'est pas du tout pour dire que je trouve ça normal, hein, mais je pense pas que ce soit considéré, l'affaire Lagarde soit considérée comme quelque chose de particulièrement dirimant à l'étranger. En revanche...
Évidemment, je ne mélange pas les deux affaires.
Oui, voilà, l'affaire Choskin, c'est une autre histoire. En revanche, à la question de savoir est-ce qu'on va voir moins de Français dans les organisations internationales à l'avenir, ben la réponse est oui, mais pas pour cette raison-là. C'est oui, parce que justement, il y a le monde, hein, a changé, le monde se rééquilibre, et donc on verra plus à l'avenir à la tête de ces grandes organisations des Chinois, des Brésiliens, Brésilien qui va succéder donc précisément à Pascal Lamy, français à la tête de l'OMC. Donc oui, on va voir moins de Français, mais pas pour cette raison.
L'image de la France aussi. Ce qui m'a interpellé aussi hier matin, c'est le comité Colbert, qui réunit quand même 75 maisons de luxe, des grandes marques, c'est Chanel, c'est Vuitton, c'est Dior, enfin voilà. qui interpelle les pouvoirs publics français à agir contre les agressions, l'insécurité à Paris, puis j'allais dire même au-delà de Paris, hein, Cannes, puisqu'il y a eu pas mal de vols de bijoux également. Ça ferait fuir les touristes, ça menacerait des emplois dans la capitale. Paris est en train d'acquérir une réputation d'insécurité absolue. Il faut vraiment une prise de conscience, dit donc la présidente du comité Colbert. Et c'est vrai que cette semaine, il y a eu encore un certain nombre d'agressions, de vols de bijoux. Il y a même un conseiller du président, ancien président américain Bill Clinton, qui s'est fait attaquer sur les Champs-Élysées au moment où il retirait de l'argent. Emmanuel Le Chypre.
Alors déjà, on peut pas mettre sur le même plan les vols de bijoux à Cannes et les agressions sur les Champs-Élysées. Là, vous avez affaire. Les vols de bijoux à Cannes, vous avez quand même, enfin, sans mauvais jeu de mots, vous avez quand même affaire à des orfèvres. Vous avez vraiment là, c'est du grand banditisme. C'est vraiment bon, voilà. Alors que, franchement, les agressions, effectivement, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, dans les agences de voyage à l'étranger, on vous vend Paris, on vous alerte quand vous prenez Paris comme destination, comme on alertait il y a 20 ou 30 ans sur New York, ville dangereuse, etc. Et c'est absolument terrifiant. Je veux dire, quand on voit les efforts qu'on essaie de faire pour attirer les touristes, c'est quand même un secteur dans lequel on a beaucoup d'atouts et qui est déjà sous-valorisé. Si en plus on se tire une balle dans le pied avec ça, franchement, et après, il faut s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger.
Regardez justement, New York, il y a Marc de Citivo, qui revient donc en très bonne santé avec toutes ses affaires, son téléphone, ses bijoux.
On sait que c'est devenu une des villes les plus sûres du monde. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu en 70 et qu'on ne sortait pas après 9h du soir. Ça, c'est indéniable. Donc, il y a eu beaucoup de choses ont changé. La politique de sécurité, la politique quand même, le plein emploi, enfin ou disons un quasi plein emploi pendant très très nombreuses années joue évidemment son fait. Non, ce que je voudrais revenir sur ce fait, parce que si vous voulez, ce qui vient de se passer ou ce qui se passe me paraît depuis un certain temps comme l'avenir de la France. Alors je voudrais être clair sur cette question. Je considère que notre risque majeur n'est ni la révolution ni l'implosion, c'est le risque russe. C'est-à-dire que à partir du moment où l'État providence n'a plus les moyens de se financer, vous allez avoir le basculement de toute une partie de gens qui ne vivaient que de subventions dans l'extrême pauvreté. Et à ce moment-là, on ne peut pas espérer que seul le trafic de drogue leur fournira les ressources. Et donc je crains qu'ils partent sur une autre voie qui est le vol et le pillage. Alors, je veux dire, on a connu ça, la Russie, l'effondrement de la Russie, ça donne ça. Ça vous donne une partie de la population qui devient mendiant, l'autre partie qui est branchée sur l'économie mondiale vit très bien, simplement il faut des voitures blindées, des gardes du corps. Je pense que nous ne devons pas écarter l'idée que ça puisse être d'une certaine manière notre avenir.
Olivier Lecomte, pas terrible ce qu'il nous dit Marc de Citivo, hein.
Oui, non, oui, moi je reviens plutôt sur les faits. Effectivement, le problème c'est que ce sont pas des faits généralement extrêmement graves, hein, mais ce sont des faits extrêmement déplaisants pour le coup, pour les victimes, surtout quand vous vous retrouvez à l'étranger. Enfin, il suffit de se mettre à la place d'eux, hein, et c'est toujours très très déplaisant. On est obligé de porter une plainte dans une langue qu'on connaît pas, enfin, vous rendez compte le truc, et que tout cela est extrêmement amplifié, relayé par les réseaux sociaux aujourd'hui, hein. Je peux vous dire que ça, ici, un touriste chinois qui se fait agresser à Paris,
bah ça, là, dans la, suite, dans, hein, dans les 10 minutes qui suivent, ça fait le tour d'entre eux, qui portent de grosses sommes d'argent liquide sur eux, ils ont été agressés, et en Asie, on cesse d'en parler. Bon, absolument. Allez, dans un instant, la politique, hein, le mariage gay, la manif, demain, bien sûr, la bataille de l'anglais, peut-être, je sais pas si on aura le temps. À tout de suite.
BFM Business, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
On continue Good Morning Weekend, il reste à peine 10 minutes jusqu'à 9h avec Olivier Lecomte, Marc de Citivo, Emmanuel Le Chypre. Alors, avant qu'on aborde la bataille qui se poursuit sur le mariage gay, hein, donc demain, grosse manifestation attendue dans un climat qui s'annonce assez tendu. Cette philippique quand même franco-française sur l'anglais à la fac, puisque dans son projet de loi défendu mercredi, la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, entre autres choses, elle propose que des cours à l'université soient faits en anglais. Alors, on a entendu des académiciens, des politiques, hein, qui crient donc à la perte de notre identité. Bon, c'est l'enseignement de l'anglais, une pratique déjà en vigueur dans les grandes écoles. Je me tourne vers vous spontanément, Olivier Lecomte, vous qui enseignez la finance à Central Paris.
Oui, c'est une pratique qui est déjà en vigueur dans pas mal de grandes écoles et d'établissements, hein, de manière générale. Bon, elle me choque pas.
Bah oui, où est le mal? Parce que Madame Fioraso, elle dit, on a perdu du retard dans la compétition pour former les élites mondiales, on perd du terrain dans l'accueil des étudiants étrangers.
C'est-à-dire qu'il faut sans doute distinguer de quel type de cours il s'agit. Hein. Quand on est sur une offre typiquement de ce qu'on appelle le MBA, bah, il est évident que là, il est assez normal que les cours soient dispensés en anglais, et parce que vous allez attirer une clientèle internationale. Mm-hmm. Si vous avez des cours très pointus, très spécifiques, je sais pas, en philosophie, en sociologie, etc., je pense que là, obliger le professeur, sauf à ce qu'il soit bien sûr naturellement bilingue, auquel cas on n'a pas de problème, mais obliger un professeur à faire un cours dans une langue qui n'est pas la sienne, je pense que ça peut se faire au détriment d'une subtilité, d'une profondeur qui serait tout à fait préjudiciable. Donc, mais je crois qu'il faut arrêter, hein, à chaque fois de vouloir réglementer, dire ce qu'il faut faire, pas faire, et faire de tout ça une montagne. Laissons quand même les universités, les universitaires, faisons leur confiance. Le point fondamental, si vous voulez, si on parle de rayonnement de la France ou du français, etc., ben c'est que une société rayonne à mesure des idées qu'elle est capable de produire. Et le problème de la France, c'est que depuis 20 ans, elle produit plus guère d'idées, qu'elle regarde même pas le monde qui avance autour d'elle. Elle est passée à côté de la mondialisation très largement, en se repliant sur des positions extraordinairement rétrogrades, voyant le monde comme une menace, caricaturant toujours ce qui se passait à l'étranger. Et ben ça, c'est sûr que ça fait beaucoup plus de mal à notre rayonnement et rayonnement de notre langue que le fait qu'il y ait 4 cours en anglais dans une université française.
Donc, peut-être un combat d'arrière-garde, Marc de Citivaux.
N'importe quand, je n'ai pas un mot à changer à ce que vient de dire Olivier. Il l'a tellement bien dit que je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à essayer de dire quelque chose de plus.
Bon, Emmanuel Lechypre, pareil,
non,
pareil.
Pareil,
bon.
Pareil.
Bon, bah très bien, alors on enchaîne avec la politique. Hein. Est-ce qu'il y aura du monde demain à Paris contre le mariage gay, une loi votée et promulguée? Vous le savez, l'UMP se déchire, alors est-ce qu'il faut y aller ou pas? Copé, Guénot, Xavier Bertrand par exemple défileront. Fillon, Juppé, Châtel n'iront pas. NKM non plus, hein. Vous savez, celle qui espère porter les couleurs de l'UMP à Paris l'an prochain, bah, sauf que la droite dure, elle se mobilise contre elle. Guillaume Pelletier, porte-drapeau de la droite forte, ne souhaite pas que l'ancienne ministre soit désignée candidate en raison de ses positions sur le mariage gay. Il a d'ailleurs été recadré lors du bureau politique de l'UMP. Mais il faut dire que l'un et l'autre, comme beaucoup d'ailleurs à l'UMP, ne sont pas d'accord. Que faire si jamais l'opposition revient au pouvoir en 2017? On abroge la loi, on la garde. Allez, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Moi, je crois qu'on doit la vérité aux électeurs. Et quand j'entends les uns ou les autres qui disent « on abrogera la loi », comme si on pouvait démarier ou désadopter, c'est pas vrai.
Voilà, alors ça c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Guillaume Pelletier, lui donc, opposé entre guillemets donc à Nathalie Kosciusko-Morizet.
Moi je souhaite que l'UMP prenne cet engagement d'organiser en 2017 un référendum qui visera à supprimer la loi Taubira et à la remplacer par une stricte union civile sans rétroactivité. Bien entendu, une union civile qui interdira les adoptions pour les personnes de même sexe, mais aussi la PMA et la GPA.
Voilà, Guillaume Pelletier, c'était sur RTL en début de semaine. Marc de Citivaux, retour donc, regard sur cette scène de ménage donc au sein de l'UMP.
Écoutez, c'est moins sur cette histoire de manifestation sur le mariage gay sur lequel je voudrais m'exprimer, mais sur NKM elle-même.
Oui.
NKM, vous voyez, j'ai eu, moi, ici, sur BFM, je ne crois pas que c'était avec vous, c'est il y a quelques années, il y a de nombreuses années, un débat avec elle, lorsqu'elle était le rapporteur de la loi qui a permis d'introduire le principe de précaution dans la Constitution française, ce qui, à mon avis, est une des lois les plus désastreuses qu'on ait. Je garde malheureusement le souvenir de quelqu'un qui était un peu court. Alors je sais qu'on dit ça d'un polytechnicien, ça paraît stupéfiant.
Mais
il est clair que tout le débat philosophique de comment fait-on le progrès, le débat prométhéen, je l'avais trouvé un peu courte. Bien, donc je ne gardais pas d'elle une très bonne image.
Bon, on peut changer, on peut apprendre.
Alors, apprendre. Néanmoins, je trouve personnellement un peu amusant que la personne qui a défendu mordicus ce principe de précaution n'ait pas décidé de l'appliquer quant à l'adoption des enfants. Je pense que donc elle a décidé de se l'appliquer à elle-même, c'est-à-dire à ne pas prendre position, une position qui lui écarterait 12 à 14% du corps électoral parisien. Je vais vous dire ce que je pense de Kosciusko-Morizet, que j'ai écouté à plusieurs reprises. Vous avez la gauche caviar, vous avez aussi la droite foie gras, c'est-à-dire des gens dont vous vous rendez compte qu'ils n'ont jamais été capables d'avoir une idée qui soit un peu en rupture ou un peu choquante. C'est exactement son style. C'est l'espèce de grande bourgeoise avec les idées à la mode qu'on trouve dans les journaux féminin et masculin d'ailleurs, mais l'idée d'avoir à un moment quelque chose qui serait différent de ce qu'on croit être, à mon avis, elle ne l'a pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne gagnera pas à Paris, j'en sais franchement rien, mais je ne trouve pas que ce soit quelqu'un qui... Elle ne change pas du politique moyen. Voilà. Le politique moyen, il est malheureusement comme ça, et c'est pour ça qu'on est un peu dans la merde depuis 30 ans.
Bon, ben voilà, NKM habillé par Marc de Citivo. Quand même, bon, sur cette polémique, Emmanuel Le Chypre, c'est quoi? C'est le retour de la machine à perdre. Je crois que c'est Bruno Le Maire qui était sur BFM Business mercredi soir, qui reparlait du retour de la droite la plus bête du monde. Hein.
Ouais, malheureusement, c'est pas ceux qui paraissent avoir le plus d'épaisseur et de... et de vision qui sont les plus en pointe dans la discussion. Donc effectivement, ça donne pas un résultat foudroyant. Et on n'arrive pas à trouver effectivement dans ce camp une personnalité qui réunisse un peu toutes les qualités. C'est-à-dire l'épaisseur intellectuelle, parce que pour le coup, il en a d'un Bruno Le Maire. Mais en même temps, bon, on peut pas dire qu'il soit vraiment charismatique et qu'il fasse se lever les salles.
Et la garde, on en parlait là tout à l'heure, il y a 10 minutes. Bah, je sais pas, je pose la question, j'ai pas de préférence.
Non, mais c'est vrai, c'est dommage cette histoire de la garde, parce que la garde avait quand même beaucoup de qualités, elle, moi, je trouve.
Bah, elle a une seule qualité, et qui est finalement celle qui manque quasiment à tous les autres, c'est que sa vraie compétence, son unique compétence, je dis unique au sens de par rapport à tout le personnel, c'est que c'est un vrai chef. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne prétend pas être technicien à la place des techniciens, mais c'est quelqu'un qui sait faire travailler ensemble des gens, des talents, dégager les consensus, bref, diriger et prendre des décisions. Et pas quelqu'un qui est un technicien qui va se prétendre expert sur tous les sujets. Moi, franchement, ce qui m'a choqué, mais profondément cette semaine, c'est quand même que on a une Cour des comptes qui est quand même composée de gens intellectuellement de très haut niveau, des grands experts, qui nous dit le système scolaire français, arrêtez de considérer que c'est un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Et puis vous avez qui, Monsieur Payon, qui arrive, qui dit non, je ne suis pas du tout d'accord avec l'avis de la Cour des comptes, mais alors à ce moment-là qu'on supprime l'institution, ouais, si on jette son avis comme ça, si on fait aussi peu de cas de ses recommandations et de son avis, je veux dire, ça sert strictement à rien. Non, lui, c'est mieux que tout le monde, évidemment, que la première cause de l'enseignement, des difficultés de l'enseignement, c'est qu'on n'a pas assez de profs. Sachant qu'il faut bien rappeler qu'on a vécu sur 20 ans d'augmentation des effectifs de professeurs, alors que dans le même temps, les effectifs d'élèves diminuaient et qu'on voit bien les résultats faramineux et absolument brillantissimes auxquels tout ça nous a conduit, puisque nous ne sommes plus que 18e maintenant au rang des classements, dans les classements internationaux.
Et bah justement, la question des élites, des grandes écoles, hein. Tiens, on y reviendra tout à l'heure, juste après 9h, entre autres, hein, puisqu'il sera avec nous pour commenter l'actualité internationale. Peter Gumbel, donc, qui sort un livre passionnant, donc, cette semaine, correspondant du Time, il sera aussi avec Martine Gozlan, les voilà qui arrivent, donc, rendez-vous dans 5 minutes après les infos de Sandrine Serret. Merci à tous les trois, merci Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris, Marc de Citivo, économiste, fondateur des Cahiers Verts de l'économie, et puis Emmanuel Le Chypre, que j'ai hâte de retrouver dans les décodeurs de l'écho à 19h à la télévision lundi soir. Allez, on revient dans 5 minutes, juste après les infos de Sandrine Serret, les infos de 9h.